L'arrivée des récipients en matière plastique, par exemple, suscite déjà des inquiétudes. On vend en bouteilles plastiques de l'huile ou du vin. Est-on certain que le recul est suffisant pour décider que les traces de plastique qui passent nécessairement dans l'huile ou dans le vin ne sont pas nocives?
Eh oui, produit miracle de l'après-Seconde Guerre mondiale, le plastique a suscité au fil du temps des inquiétudes qui aujourd'hui sont devenues des alertes mondiales en matière de santé publique et d'environnement. Aussi, à Busan, en Corée du Sud, 175 pays sont représentés pour discuter d'un traité visant à lutter contre cette pollution qui envahit nos vies. Mais comment la stopper? Peut-on réellement se passer de ce matériau? Le cercle vertueux est-il une pure fiction ou des solutions existent-elles pour sauver le vivant sur notre planète asphyxiée par le plastique? Réponse avec nos trois invités. Nathalie Gontard, bonsoir.
Bonsoir Aurélie.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheuse depuis plus de 30 ans sur le plastique, directrice de recherche à l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, l'INRAE. Et vous êtes co-auteure avec Hélène Singier du livre « Plastique, le grand emballement », un livre paru aux éditions Stock. Avec nous également Rosalie Mann, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes présidente fondatrice de la fondation No More Plastique et auteure du livre « No More Plastique, comment le plastique ruine notre santé », un livre paru aux éditions La Plage. Et avec nous, Flore Berlingen, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes cofondatrice de l'Observatoire du principe pollueur-payeur et coordinatrice du plaidoyer En mode climat et auteur de livres, mais notamment, je cite les deux qui sont justement au cœur de nos sujets, Recyclage, le grand enfumage, et puis le dernier paru, Permis de nuire, tous deux édités chez Rue de l'Échiquier. Bienvenue à toutes et à tous, c'est votre magazine de l'environnement sur France Culture, en direct, et nous sommes en partenariat avec le journal Le Monde, émission préparée par Corinne Amar et Léa Weissgruss, avec la collaboration de Lily Cornaer, Vanessa Chang, celle des équipes de documentation de Radio France, et je les salue tous et toutes, hein, émission réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique Ludovic Auger.
À une cadence infernale, le plastique a envahi nos vies. En seulement 20 ans, sa production dans le monde a doublé, pour atteindre 460 millions de tonnes. La Chine est à l'origine de 20% de cette fabrication, suivie par les États-Unis 18% et l'Union européenne 15%. Le plastique est partout, dans les pièces détachées de nos voitures, le polyester de nos vêtements ou les jouets de nos enfants. Mais c'est bien l'industrie des emballages qui est la plus productrice, avec 158 millions de tonnes de plastique par an. Vient ensuite celle du bâtiment, puis la filière textile. Des produits à la durée de vie très courte, très rapidement jetés. Entre sa production et le moment où il finit à la poubelle, il s'écoule en moyenne 6 mois pour un emballage, 3 ans pour les biens de consommation courante, 5 ans pour les vêtements, 8 ans pour les appareils ménagers, 35 ans pour les matériaux de construction. Les pays riches sont les plus gros consommateurs de plastique, des tonnes de déchets qu'il faut ensuite traiter.
Beaucoup de plastiques ne sont pas recyclables, on ne sait pas quoi en faire et ils restent là. Et donc on les envoie à l'autre bout du monde pour qu'eux les laissent dans des décharges parce qu'ils n'ont pas les infrastructures nécessaires. C'est pour ça que pour réduire ce fléau, il faut réduire la production.
Eh oui, premier état des lieux de ce monde plastique avec ce reportage diffusé sur France 2 le 29 mai 2023. Un produit miracle hein, qui remonte à l'après-Deuxième Guerre mondiale. Miracle parce qu'il était reçu comme tel dans la société et qui est devenu un problème mondial. On l'entend avec les chiffres qui étaient mentionnés dans ce reportage. Production, consommation qui pose problème. Peut-être une première réaction, Rosalie Mann, sur justement ces chiffres hein, qui ont quand même la vertu de détourner et de sensibiliser.
Oui, absolument. Aujourd'hui, on produit 460 millions de tonnes de plastique. On vit à l'ère du plastique beaucoup plus qu'à l'ère numérique. Et il faut aujourd'hui absolument comprendre l'ampleur de ce que ça représente. C'est-à-dire que la pollution plastique, ça ne commence pas au moment du déchet. C'est vraiment tout au long du cycle de vie d'un plastique. Et le plastique, ce n'est pas uniquement les usages uniques, c'est vos vêtements qui ne sont pas des usages uniques, mais qui polluent énormément. Et surtout, ça nuit à la santé. Aujourd'hui, il y a énormément de preuves scientifiques qui existent sur une grande majorité de maladies très présentes dans notre société, notamment le cancer. Aujourd'hui, on est à 80% de plus de cancers chez les moins de 50 ans depuis 1990 à 2019. Donc, ça vous donne un peu une ordre d'idée. Et on sait aujourd'hui par les études, notamment avec les microparticules et les nanoparticules qu'on a retrouvées dans l'organisme, que c'est vraiment lié à cette ingestion de microparticules.
Corrélation. Donc, Nathalie Gontard, depuis les années 50, hein, nous avons accumulé 9 milliards de tonnes de plastique, hein, je crois. Ce sont des chiffres effectivement énormes, parce que ce monde plastique, finalement, il a remplacé les métaux, le verre, le bois qu'on utilisait avant.
C'est ça. Alors, juste pour enfoncer un petit peu le clou,
allez-y.
Nous avons accumulé 9 milliards de tonnes. Mais 9 milliards de tonnes, finalement, ça représente quoi? Ben, juste pour vous donner une idée, c'est 4 à 5 fois plus que la totalité de la biomasse animale qui existe sur Terre. Juste pour qu'on ait une idée de la façon dont ce matériau a vraiment envahi la planète. Et envahi la planète de façon globale, mais jusque... Un autre chiffre pour nous donner encore une idée sur la façon dont il nous a envahis, c'est qu'une étude récente de chercheurs américains nous a donc montré que notre cerveau est d'ores et déjà aujourd'hui constitué de 0,5% de micro et de nanoplastiques.
Ah oui, parce que on a l'habitude de lire un petit peu, des données ou de dire que chaque semaine, je crois, on ingère l'équivalent d'une carte de crédit de plastique. C'est ça ou je me trompe?
Voilà. Alors on en ingère, on en rejette, mais il y en a une grosse partie qui
reste dans le corps,
qui s'accumule dans les organes. Et on y reviendra certainement, mais c'est quand même un des gros gros problèmes. Donc oui, pour revenir sur les utilisations, c'est clair que le plastique a remplacé beaucoup de matériaux, mais pas seulement. Il a créé ses propres, il a créé ses propres utilisations, ses propres marchés. Hein. Et je crois que la principale qualité du plastique a été de pouvoir se mettre en forme très facilement. C'est-à-dire qu'il suffit de le chauffer puis de lui donner n'importe quelle forme. En fait, on refroidit puis ensuite il reste dans cette forme-là. On peut lui donner aussi n'importe quelle couleur. Et puis après, en dehors de ça, évidemment, c'est un matériau qui est résistant à l'humidité, etc. Mais juste pour dire qu'en fait, ça a été quand même un progrès qui est énorme, parce que imaginez quand même qu'il faut débiter, raboter le bois, couper, assembler le métal, coller le papier, le carton, tisser, coudre les tissus. Bon, bref, c'est quand même un matériau qui a apporté un confort au niveau de la fabrication des objets et qui a nourri, quelque part, notre progrès, jusqu'à une certaine limite, évidemment.
Mais oui.
Limite que nous avons bien dépassée, mais disons que ça a été quand même un symbole de la modernité des années 70.
Hein. Mais oui.
Notre président Pompidou avait remplacé tous les meubles de l'Élysée par des meubles en polyester moulé, voilà, des meubles magnifiques.
Et donc environ 350 millions de tonnes de déchets plastiques sont générés chaque année dans le monde, une production qui a doublé en 25 ans et qui devrait tripler d'ici 2060. C'est vraiment pour donner un ordre de grandeur. Flore Berlingen, sur ces questions-là, et on ne l'a pas encore mentionné, mais ce sont là aussi des polymères produits grâce aux pétrochimistes. Donc l'industrie pétrolière, est au cœur aussi de cette production.
Oui, absolument. Et le plastique est son nouveau débouché. Enfin, ce n'est pas un nouveau débouché, mais en tout cas, c'est ce qui est désormais le moteur, économiquement parlant, de cette industrie. Et je voulais rebondir sur ce que disait Nathalie Gontard à l'instant. Le plastique a nourri notre confort, mais il a aussi nourri notre surconsommation, d'une manière générale. Par exemple, on peut considérer vraiment que ce sont les matières plastiques, les matières synthétiques, les fibres synthétiques, depuis quelques décennies maintenant, le carburant de la fast fashion, par exemple. Cette mode accélérée qui nous pousse à la surconsommation grâce à ces bas prix, enfin du fait de ces bas prix, qui ne sont possibles que grâce au polyester et qui permet de réduire au minimum les coûts de production. Et donc, voilà, c'est un effet indirect aussi de cette omniprésence du plastique. C'est une surconsommation plus généralisée et qui a des impacts non seulement en termes de déchets, mais aussi en termes de consommation d'énergie, d'émissions de gaz à effet de serre et de consommation d'eau et d'autres ressources.
Et donc le plastique représente 50% de la pétrochimie. Rosalie Mann, une empreinte écologique, une empreinte carbone du plastique.
Oui, non, absolument. Je voulais rebondir sur ce que disait à l'instant Flore sur le textile. En fait, c'est pas uniquement la fast fashion. C'est ça qui est terrible. C'est qu'aujourd'hui, vous avez même les très grandes marques de luxe, absolument toute la mode qui nous vend du plastique et souvent mélangé à des matériaux naturels. Aujourd'hui, regardez n'importe quelle étiquette dans les magasins. C'est affolant de voir que vous avez 20% de polyester, polyamide, nylon. Alors, il faut savoir que tous polyamide, nylon, polyester, polyéthylène, tout ça, c'est des matériaux plastiques issus de la pétrochimie et que c'est dangereux pour votre santé et essentiellement pour les femmes parce qu'on est en première ligne de cette pollution, non pas pour des questions féminisme ou quoi que ce soit, c'est tout simplement pour des questions biologiques. On va stocker davantage les perturbateurs endocriniens présents dans ces toxines qui sont présentes dans ces fibres et au moment du cycle de la femme qui sont la puberté, les menstruations, la ménopause et puis si vous êtes enceinte, la grossesse et la lactation. Donc c'est très important que les gens réalisent qu'aujourd'hui, il n'y a pas uniquement la question de plastique à usage unique. Le textile est un énorme problème aujourd'hui dans notre société. C'est 70% quand même de textile de matière synthétique. Donc l'empreinte plastique dont vous me posiez la question, oui. Elle est gigantesque. D'autant qu'il y a beaucoup... Alors nous, dans le livre, parce que j'ai mené une enquête de 7 ans sur le sujet pour justement comprendre à quel point les études existent déjà, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a le traité international qui est en cours, mais on a 50 ans de retard. On savait déjà, il y a 50 ans, que ces matériaux avaient un problème de question de santé publique. On a caché l'histoire, etc., en se disant, bon, c'est que quelques études, on fait pas grand-chose. Moi, je comprends pas sur un sujet aussi grave qu'on ait laissé faire. Et on a 50 ans de retard.
Et on peut préciser pour nos auditeurs que ce qui vous a interpellé, c'est il y a quelques années, quand votre fils est tombé malade.
Absolument, tout à fait. Quand mon fils est tombé malade, il est tombé...
Donc il était asthmatique ?
Il était très asthmatique, il l'est toujours d'ailleurs, malheureusement. Et ça s'est aggravé avec le temps. Et on a passé beaucoup de temps aux urgences et un jour il y a ce médecin qui est venu me voir et qui m'a vu parce que ça faisait plusieurs jours que j'étais là, j'étais très fatiguée, etc. et qui m'a dit, vous savez madame, c'est normal, c'est la pollution. Et en fait cette phrase pour moi ça a été un électrochoc total parce que ok c'est peut-être normal pour lui parce que c'est vrai, il voit ça tous les jours, il y avait beaucoup d'autres enfants malades, etc. et puis vous allez me dire l'asthme c'est pas très grave. L'asthme, vous pouvez mourir de ça. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est vraiment une maladie grave. Et voir un enfant qui pourrait être avec ses amis, jouer, etc., et qui est à l'hôpital pendant des jours et tout, c'est pas normal. Et donc, moi, je ne souhaite pas qu'on ait cette société où on se dise c'est normal, nos enfants vont à l'hôpital et c'est normal.
Parce qu'il y a une pollution ou atmosphérique,
c'est normal, c'est la pollution,
autre,
etc.
Par l'air, donc, par l'alimentation à partir de là, ou au contact.
Exactement. Et à partir de là, j'ai voulu comprendre. J'ai appelé mon ami Alexandre Cousteau et qui m'a mis en contact avec différents scientifiques. Et là, j'ai découvert l'impensable. Qu'on respire des microparticules de plastique et des nanoparticules de plastique.
Nathalie Gontard, ça doit éveiller aussi en vous ce qui vous est arrivé personnellement, hein, puisque vous aussi, vous avez failli en mourir quand même.
J'ai fait l'expérience, oui, moi-même, il y a très longtemps, début des années 2000, de respirer comme ça des particules. Alors à l'époque, c'était des matériaux qui étaient biofragmentables. On était persuadé que loin des yeux, loin du cœur et de la santé, mais en fait pas du tout, hein, puisque le plastique, comme Rosalie nous l'a bien expliqué, il devient dangereux lorsqu'il n'est plus visible. Et ça, c'est pas forcément facile à comprendre. Et j'aurais voulu aussi revenir un petit peu sur ces usages pour expliquer à quel point on s'enfonce encore un peu plus tous les jours dans cet usage complètement déraisonnable de plastique. Donc on a parlé de la fast fashion, mais en effet, vous avez raison, pas que toutes les grandes marques s'y mettent. Il faudrait parler qu'on parle aussi de la fast-food, hein, avec tous ces aliments à emporter, à consommer sous emballage plastique. La course à l'hygiène post-Covid, qui a été quand même, avec tous les objets jetables, qui a été un coup d'accélérateur encore qui a été donné à cette consommation de plastique. Les sports de vitesse, rappelez-vous-en quand même, hein, parce que derrière nos héros qui partent sur leur bateau ou dans leur voiture, eh bien, ce sont des héros qui n'en finissent plus de battre leur record grâce aux performances de leur plastique. Mmh. Et puis, aussi, quelque chose d'important, c'est que toutes les transitions, qu'elles soient numériques ou écologiques, se développent à grand renfort de plastique, sans le dire. Alors, les fruits et légumes bio, par exemple, hein, sans pesticides, qui utilisent moins d'eau, là, donc, ce sont des films de paillage et des paysages de zones maraîchères avec des plastiques à perte de vue. Le bâtiment, derrière les performances écolo des maisons basse consommation, ce sont quand même des menuiseries en PVC, des murs et des toits isolés en polystyrène expansé, des sols en polyuréthane, tout ça c'est du plastique. Les énergies vertes, qui se parlent d'éoliennes, de panneaux ou de voiles, tout ça c'est en plastique. Et il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, si le progrès que nous sommes en train de mettre en place cherche à se débarrasser de ces émissions de gaz à effet de serre, il reste solidement ancré dans une utilisation massive de plastique. En bref, on troque une empreinte carbone contre une empreinte plastique. Alors, pourquoi pas, hein ? Mais ce qui signifie quand même qu'il y a des arbitrages qui doivent être faits et que si on arbitre en faveur de ces technologies de transition, comme nous sommes en train de le faire, eh bien, en contrepartie, nous devons vraiment limiter notre utilisation de plastique qui n'est pas utile. Et ça, je crois que... Voilà,
oui,
ça,
comme vous dites, limiter ce qui n'est pas utile, parce qu'il y a du bon plastique qui sauve aussi des vies dans le monde médical, par exemple. Et ça, bien sûr, il faut pouvoir conserver ces avancées, hein. Nathalie Gontard.
En fait, dans chaque domaine, dans chaque profession, il y a du plastique utile et du plastique qui ne l'est pas.
D'accord.
Même dans le milieu hospitalier, il y a aussi utilisation de beaucoup de plastique dont on pourrait parfaitement se passer. Donc c'est vrai que c'est une question qu'il faut que chaque secteur professionnel, chaque secteur industriel se pose, et ce sont des questions qui n'ont pas encore été posées.
Alors, voilà. Par exemple, si on devait donner des exemples pour les auditeurs qui doivent se dire, mais alors de quoi on pourrait...
Eh bien alors, les exemples, ils sont assez simples. Je pense qu'on a quand même commencé déjà à se débarrasser de quelques-uns de ces plastiques inutiles. On va acheter des fruits et légumes dans les rayons fruits et légumes, on n'a plus de sacs plastiques. On a des sacs en papier craft biodégradables qui nous conviennent très bien. On utilise des sacs en coton de sortie de caisse qui sont lavables, réutilisables, on s'en passe très bien. Il y a actuellement des efforts qui sont faits pour éliminer tous les plastiques des fruits et légumes frais. Bon, évidemment, efforts qui sont mis un peu à mal par le lobby industriel, mais bon, on est quand même dans la bonne direction là-dessus. Et puis, des initiatives comme les cantines et la restauration collective sans plastique aujourd'hui, qui se met vraiment en place avec tout un tas de solutions. Donc, mais là, on ne fait que commencer. C'est vraiment un tout début. C'est-à-dire que quelque part, c'est vraiment une goutte d'eau par rapport à l'océan de plastique que nous utilisons et à l'océan de plastique non essentiel. Je pense qu'on pourrait évaluer ces plastiques non essentiels à plus des trois quarts des plastiques que nous utilisons aujourd'hui. Mais attention, quand je parle de plastique non essentiel, je ne m'adresse pas forcément à l'appréciation faite par les consommateurs eux-mêmes, ou du moins pas seulement. Hein. Je crois que c'est vraiment aux industriels à nous proposer des biens et des services avec un strict minimum de plastique. Sauf qu'actuellement, je pense qu'on n'est pas bien parti dans cette direction, y compris dans ces négociations de Busan. Hein.
On va en parler. Rosalie Mann et ensuite Fleur Berlingen.
Oui, excusez-moi, j'aimerais rebondir sur ce que dit Nathalie, elle a tout à fait raison, et j'aimerais donner un exemple d'industriel qui déplastifie son industrie, parce que je pense que c'est important que les gens comprennent qu'il y a déjà des industriels qui ont pensé à déplastifier, donc on connaît tous les pas de baril là, et ils ont enlevé leur petite fenêtre en plastique. Ça a évidemment permis à l'entreprise de faire de vrais bénéfices au terme du coût, parce que ce petit plastique, il n'est pas gratuit. Donc, ils l'ont éliminé, ils ont réussi à déplastifier, et ils n'ont pas du tout perdu de chiffre d'affaires. Donc, tous les industriels qui se disent « Oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça va me coûter cher de me déplastifier ?» C'est totalement faux. Déplastifier votre entreprise, c'est déjà faire des économies. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la crise économique que nous traversons, chaque entrepreneur est preneur d'économies. Donc, quand on déplastifie, c'est important d'analyser dans chacun de vos entreprises, même la plus petite PME possible, quels sont les emballages, parce que l'emballage est un vrai, vrai problème. Sur les 460 millions de tonnes de plastique qu'on produit par an, l'emballage représente quand même près de 38%. Et si on y ajoute le textile, on est à plus de 50%. Donc, si on parle de plastique complètement inutile, c'est dans ces deux secteurs-là. L'emballage, on peut tout à fait se passer de plastique, et le textile également. Et faire croire aux gens qu'on ne peut pas s'en passer, c'est faux. Il y a énormément d'alternatives qui existent déjà, mais qu'on a complètement délaissées, comme le verre, par exemple, sous prétexte qu'il dégage plus de gaz à effet de serre, etc. Mais c'est totalement faux. Et en plus, aujourd'hui, on a la possibilité d'en produire qui est beaucoup plus léger, incassable, qui dégage moins de gaz à effet de serre, etc. etc.
Flore Berlingen.
Oui, alors effectivement, il faut une priorisation des usages. Aujourd'hui, elle n'existe pas, cette priorisation des usages du plastique, ou quasiment pas. Donc, ce qui fait qu'on consomme de cette matière qui devrait être considérée comme précieuse d'une certaine manière, même si elle est plutôt dangereuse. On en consomme de manière assez désordonnée et pas du tout priorisé. Ensuite, bien sûr, il faut déplastifier, mais attention aux effets de substitution, enfin aux effets rebonds que cela peut éventuellement produire. Il faut quand même garder en tête que il faut remettre en question l'usage unique, d'une part, et pas seulement l'usage unique de produits en plastique ou d'emballage en plastique, mais l'usage unique aussi quand il s'agit de papier, carton, bois, etc. Et puis, il faut aussi et surtout remettre en question la quantité produite. Et donc là, quand on parle du textile, le problème aussi, c'est la quantité. Et on ne pourrait pas, à l'heure actuelle, remplacer le polyester et les autres fibres synthétiques par du coton ou d'autres fibres naturelles à l'identique. Ça ne marche, ça ne fonctionnerait pas, ce ne serait pas soutenable. Il faut absolument réduire la quantité de vêtements produits et consommés pour pouvoir faire cette transition vers des fibres naturelles qui ne posent pas ces problèmes de toxicité.
D'accord. Alors Nathalie, Flore Berlingen, allez-y. Nathalie Gontard.
Nathalie Gontard, je voulais juste allez-y. Revenir sur cette notion d'usage unique parce que c'est vrai que l'usage unique, ça signifie quand même qu'un objet est utilisé très peu de temps, mais je voudrais pas non plus que cela fausse notre idée, notre perception sur la pollution plastique en fait, parce que ça nous donne l'impression que un plastique qui est utilisé très longtemps, un matériau plastique qui est utilisé très longtemps ne pollue pas. Hein. Et donc, on revient sur cette notion de déchet plastique. Donc, le plastique ne pollue que lorsqu'il est sous la forme d'un déchet. Pas du tout. Un plastique pollue dès sa production et tout au long de son usage. Lorsque, par exemple, on essaie de tracer les microplastiques qu'on retrouve au fin fond des glaces de l'Arctique, on s'aperçoit qu'une grande majorité viennent des bâtiments, de l'isolation de bâtiments en cours d'usage. Lorsqu'on trace les microplastiques qu'on trouve dans les eaux, on s'aperçoit qu'ils viennent de vêtements en cours d'usage.
Sur l'Everest.
Voilà, et ainsi de suite. Dans l'air, ce sont des pneus ou des routes qui sont en train de s'user. Donc en fait, même si un matériau plastique est usé très longtemps, par exemple le PVC de vos huisseries, eh bien, il va vieillir et au cours de son usage, il va libérer des micros et des nanoparticules. Et en fait, la pollution plastique et l'empreinte plastique, c'est pas le plastique moche qu'on voit, hein. C'est vraiment le plastique invisible, c'est-à-dire ces microparticules qui vont polluer. Donc l'usage unique, certes, on s'est emballé là-dessus, mais attention, il n'y a pas que, parce qu'il y a aussi l'usage qui n'est pas... Non, c'est pas suffisant, hein. C'est-à-dire que souvent on me dit oh ben non mais là c'est pas très grave, c'est un plastique que je vais utiliser très longtemps. Ben non, je suis pas d'accord, c'est pas parce qu'on l'utilise longtemps qu'il ne pollue pas. Si on peut utiliser des huisseries en bois, ben il vaut peut-être mieux.
Ah oui, voilà, donc et qu'il n'est voilà, ce n'est pas parce qu'il dure longtemps qu'il n'est pas contaminant en tout cas pour et l'environnement et pour la santé. Alors on va justement se poser la question de peut-être des solutions, des initiatives du recyclage au moins poser la question de cette politique du recyclage avant tout. Je vous propose d'écouter ce reportage puisqu'on voit qu'il y a des initiatives, alors bonnes ou moins bonnes, on va en discuter. Mais écoutez ce reportage diffusé sur France 3 le 31 mai 2023.
Ils font partie de nos vies pendant quelques années ou quelques mois. Et puis c'est le désamour. La voiture de Spider-Man, le pot de fleurs, tous finissent immanquablement dans une benne pour être incinérés. Tel est le destin des plastiques rigides.
Plastique rigide, c'est le plastique qui ne casse pas. Derrière les plastiques, vous avez des petits triangles. Le 1, c'est les bouteilles en plastique. Le 2, c'est du PP, on peut mettre. Le 3, on met pas.
La liste est longue et c'est bien ce qui intéresse cet entrepreneur. Persuadé que ces irrécupérables peuvent avoir une seconde vie.
On a à peu près 35 déchetteries où on va avoir des bennes spécifiques plastique rigide. Et l'idée, c'est de mettre un maximum de déchets dans cette benne puisqu'elles vont être transformées en dalles à la place d'être incinérées ou enterrées.
Le résultat, le voilà. Un minerai de plastique fondu, selon un procédé tenu secret, et moulé en forme de dalle. Des hexagones qui, une fois assemblés, feront des places de parking. Du plastique à la place du goudron. À ce stade, rien d'extraordinaire, mais il y a bien une différence.
C'est très facile à poser. Et puis, on voit entre chaque dalle, vous avez un espace qui va permettre, en cas de forte pluie, à l'eau de s'infiltrer et donc d'éviter des inondations.
On aime bien dire qu'on veut sauver le monde du plastique. Ça paraît dérisoire avec des dalles, mais en fait, les parkings, ça représente des milliers de mètres carrés déjà en France, des centaines de milliers, mais à l'échelle du monde encore plus. Et à notre échelle, ouais, on aimerait bien lutter contre la pollution plastique. Et c'est ce qu'on fait en fait tous les jours.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Eh oui, nous voyons des envies d'agir louables, hein, mais le recyclage est-il possible et vertueux? La politique du recyclage, est-ce toujours le grand emballement, hein, pour reprendre le titre de votre livre, Nathalie Gontard, ou le grand enfumage, pour reprendre le titre de votre livre, Flore Berlingen, en tout cas, qui veut réagir peut-être sur cette question qui est vraiment importante avant de se poser aussi la question de potentielles solutions. C'est, voilà, est-ce que tout est recyclable, réutilisable, ou en est-on à ce niveau-là dans cette politique?
Soit Flore, soit moi.
Oui, je
Flore Berlingen, voilà, on fera le tour de table, allez-y.
D'accord. Alors non, tout n'est pas recyclable et tout n'est pas recyclé. Au niveau mondial, c'est moins de 10% des déchets plastiques qui sont recyclés. Et ça fait des décennies maintenant qu'on attend des progrès, mais qui ne viennent pas et qui ne pourront pas venir, en tout cas pas pour nous permettre d'atteindre un horizon de 100% de recyclage, comme on entend parfois jusqu'à l'Élysée. Donc
et pourquoi si peu?
Pourquoi si peu? Ben parce que tous les plastiques ne sont pas recyclables et ne, enfin, non seulement à l'heure actuelle, mais tous ne peuvent pas le devenir. Et puis il y a aussi la problématique de la collecte et de la dissémination dans l'environnement, puisque c'est pas juste une question de geste de tri. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, oui. Que tout dépend uniquement de notre geste de tri. Non, ce sont quand même les choix de conception en amont qui sont faits qui déterminent si l'objet sera recyclable ou non. Et il y a un certain nombre d'usages des plastiques qui sont en fait dispersifs, des matières qu'on ne pourra jamais récupérer. Et Nathalie Gontard donnait l'exemple des pneus où là même on entendait à l'instant qu'on pouvait fabriquer des briques à partir de matières recyclées. Ces briques, quand elles vont se fragmenter et libérer des microplastiques, il sera absolument impossible de récupérer les microplastiques pour les recycler ensuite. Donc on voit le problème de dissémination qui limite de toute façon le potentiel de recyclage du plastique. Donc on devrait parler finalement que d'une forme de décyclage, de sous-cyclage, puisque le potentiel est limité par de nombreux aspects à la fois techniques et opérationnels. Et puis j'ajoute aussi que voilà, le recyclage n'apporte pas de réponse aux enjeux de toxicité et aux impacts sur la santé dont on parlait en début d'émission.
Oui, tout à fait. Oui, effectivement. Alors, Rosalie Mann et ensuite Nathalie Gontard.
Alors moi, je dirais même plus loin. Enfin, nous, ça fait longtemps qu'on travaille sur ces sujets. Et pour moi, le recyclage, c'est une hérésie et un non-sens sanitaire et climatique. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, recycler du plastique, il y a énormément d'études qui existent, qui montrent qu'un plastique recyclé est plus toxique qu'un plastique vierge. Et un plastique vierge est déjà toxique. Donc un plastique recyclé encore plus. Et ce que disait Nathalie juste précédemment concernant le réemploi, c'est la même chose. Donc proposer le réemploi et le recyclage comme objectif à des solutions, c'est une hérésie totale. Nous, on se bat énormément là-dessus. En fait, il faut comprendre que on est aujourd'hui, vis-à-vis de ces études-là, exactement là où nous étions en 1970 sur les études qui concernaient la santé publique. Donc, est-ce que nous allons encore attendre des décennies pour reconnaître que le recyclage du plastique, c'est pire que tout, et que 10%, 5%, 25%, on s'en fiche? Le but, c'est pourquoi recycler quand on sait que ça aggrave la santé publique, que ça aggrave le climat, parce qu'en fait, un plastique recyclé, et un plastique vierge d'ailleurs, mais c'est juste pour vous expliquer, il y a une étude de scientifiques basés à Hawaï avec qui j'ai discuté, qui ont mis en évidence dans une étude très importante datant de 2019, que tous les plastiques et plastiques recyclés dégagent des gaz à effet de serre au contact UV du soleil. Donc refaire des dalles, refaire des constructions au contact du soleil et dans des pays en voie de développement où le soleil
sont pas des solutions, quoi.
Dégage des gaz à effet de serre et augmente ce qu'on souhaite aujourd'hui éviter, c'est-à-dire le changement climatique avec on parle de décarbonisation, mais si on veut décarboner, il faut absolument s'attaquer à la question de la production et l'usage qu'on va faire de ce plastique, recyclé ou pas d'ailleurs.
Alors, Fleur Berlingen veut réagir, et puis ensuite Nathalie Gontard.
Oui, ce qu'il faut voir aussi, c'est que le recyclage ou l'argument du recyclage est souvent utilisé pour retarder l'adoption de réglementations plus contraignantes, d'objectifs de réduction nette. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est fermer le robinet à la source.
Absolument.
Parce que essayer désespérément de recycler tel ou tel plastique qui est difficilement recyclable, ça nous demande du temps, des moyens financiers extrêmement importants. Et ce temps et ces moyens ne sont pas alloués à essayer plutôt de chercher ou de développer les alternatives qui existent déjà. Et ça c'est vraiment une erreur stratégique, en fait. On est en train de perdre un temps précieux.
Absolument, on perd un temps extrêmement précieux et on met en danger la santé de nos concitoyens et la planète entière.
Nathalie Gontard, alors on comprend aussi que le plastique recyclé ne se substitue pas au plastique vierge, hein. J'ajoute cela, voilà, mais allez-y.
Oui, c'est important, je crois, de le dire.
Exactement.
Donc, je vais enfoncer un peu le clou de tout ce qu'ont dit Rosalie et Flore. En fait, le recyclage, c'est une bonne idée qui vient du concept d'économie circulaire où on va se dire, on va régénérer le déchet, on va lui redonner la forme de l'objet initial, on va le régénérer, donc on n'a plus de déchets, puis on n'utilise plus de ressources. Hein. Donc ça, la nature sait le faire. Hein. Ce sont les feuilles de jardin que vous avez au printemps qui sont dégradées puis régénérées par photosynthèse au printemps d'après, quasi à l'identique. Donc on s'est dit qu'on allait faire la même chose. Ce qu'on a fait de plus proche, c'est le recyclage des bouteilles en PET, mais qui est loin d'être imparfait. Je dis bien des bouteilles qui n'ont contenu que un produit aqueux, puisque le plastique est un matériau interactif, donc ça veut dire qu'il faut le décontaminer ensuite, ce qui est très compliqué. Donc c'est un recyclage qui permet d'économiser légèrement de la matière première, du plastique vierge, mais très peu, et qui est très limité. Bon, ça c'est le meilleur recyclage c'est le seul recyclage en fait que l'on pratique actuellement, et je suis désolée, mais il ne représente pas 9 ou 10%, hein. Il représente moins de 1%. Ah oui. Actuellement de la quantité de plastique qu'on utilise. Donc le vrai recyclage, il est bien plus faible que ça. Tout ce qu'on appelle recyclage est en fait, n'en est pas, c'est du décyclage. C'est-à-dire qu'on ne boucle pas la boucle, on ne refabrique pas le même objet. On l'a vu donc dans le petit reportage, hein, on va fabriquer un autre objet. Je crois que Flore nous l'a bien expliqué, Rosalie aussi, on va continuer à émettre des polluants. Mais il faut savoir qu'il va y avoir aussi d'autres effets secondaires indésirables qui sont, la première chose, c'est qu'on va encourager la consommation, puisque mettant le plastique dans la bonne poubelle, on se dit qu'il est recyclé et qu'on éradique la pollution, ce qui n'est pas le cas. Ensuite, pour pouvoir écouler ce plastique décyclé, donc on va chercher de nouveaux marchés et on va remplacer des matériaux locaux et traditionnels qui ne posaient pas de problèmes environnementaux. Par exemple, la bouteille en PET, au lieu de redevenir une bouteille en PET, elle va devenir un pull-over en polyester recyclé. Elle va remplacer la laine aujourd'hui qui ne coûte plus rien. Et on peut expliquer ce scénario et le présenter sur des tas d'autres matériaux. Ensuite, il faut aussi savoir que la création de ces nouvelles filières crée une vraie dépendance aux déchets, c'est-à-dire aux déchets plastiques. C'est-à-dire qu'ensuite, lorsqu'on aura construit toutes ces filières de fabrication de vêtements polyester recyclés, on va devoir continuer à consommer de la bouteille en plastique pour pouvoir alimenter ces entreprises. Donc, c'est quand même, moi, quand on me dit, oui, Nathalie, mais c'est pas parfait, mais c'est quand même mieux que rien, moi, j'ai envie de dire non, vraiment, c'est pire que rien. Et ce n'est pas...
Exactement.
Ce n'est pas du tout un cercle vertueux que l'on met en place. Hein. Ce n'est pas du tout une économie circulaire. Oui. C'est une spirale infernale.
Et alors, juste rapidement, le plastique dont on ne fait rien, il devient quoi ? On le brûle ?
Non, non, non. Il faut. Il y a des. Alors, je sais pas, Nathalie
Gontard, allez-y.
Dans certains pays, oui. Certains pays comme la Norvège ont pris le parti de l'incinérer en grande partie. Hein. Après, en moyenne dans l'Europe, non, il y a une partie qui est. Qui part enfoui, mais enfoui, c'est pareil, on ne fait rien. On ne fait rien pour limiter la pollution plastique, hein, puisque enfoui, ça veut dire on fait un grand trou, on met une bâche en plastique et on attend que le plastique se dégrade. Donc on ne fait que le léguer aux générations futures. Donc c'est vraiment un réservoir de micro et de nanoplastiques que ce sont des réservoirs de micro et de nanoplastiques que l'on crée, que l'on lègue comme un héritage empoisonné aux générations à venir.
Et qui reviennent soit par l'alimentation, soit par l'air. Enfin, la contamination est permanente, quoi.
Oui, tout à fait. Rosalie Mann. Mais je pense que les solutions, elles existent déjà, parce qu'il y a ces enzymes, et Carbios, par exemple, sait détruire un plastique, sauf que le problème, c'est qu'ils le remettent en circulation. Et en fait, à partir du moment où on comprendra réellement, et on arrivera à comprendre, et j'espère que ça ne prendra pas des décennies, que le recyclage du plastique et le réemploi ne sont pas des solutions du tout, du tout, du tout.
Et comme... qu'il y a une dégradation des propriétés à chaque réemploi. Donc,
ah,
on ne peut pas recycler plusieurs fois. Une fois, maximum deux fois, j'ai cru comprendre
oui,
ça.
Absolument. Et pas pour faire et les mêmes objets. Et même si on y arrivait, parce qu'aujourd'hui, il y a des technologies, des projets pilotes qui disent on y arriverait à l'infini. Que nini, non, à l'infini. Oui. À l'infini, pourquoi faire ? Pour
c'est
contaminer encore plus
en
les gens, avoir des maladies encore plus graves, le climat qui se détériore. Non, merci, ce ne sont pas des solutions. C'est pour ça que c'est important que les gens comprennent que c'est une question de santé publique, une question d'écologie et de climat et une question d'économie. Parce qu'une société qui est malade et une société et un tourisme qui est en danger, ça génère des coûts. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plant. What you bought from a rubber man in a town full of rubber plants to get rid of itself. The world's around.
Radiohead, Fake Plastic Trees. Et c'est la suite de Deux causes à effet, le magazine de l'environnement sur France Culture. Nous sommes en direct et nous poursuivons notre introspection de notre planète asphyxiée de plastique en compagnie de nos trois invités. Nathalie Gontard, directrice de recherche à l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, co-auteur du livre Plastique, le grand emballement, un livre paru aux éditions Stock. Rosalie Mann, présidente fondatrice de la fondation No More Plastique et auteur du livre No More Plastique, comment le plastique ruine notre santé, un livre paru aux éditions La Plage. Et Flore Berlingen, cofondatrice de l'Observatoire du principe pollueur-payeur et coordinatrice du plaidoyer en mode climat, auteur de Recyclage, le grand enfumage et Permis de nuire, deux livres édités
chez Rue de l'Échiquier.
Dans ce restaurant du bord de mer à Yoff, au nord de Dakar, aucun plastique en vue. Les pailles sont en bambou, les carafes d'eau en verre ont remplacé les bouteilles plastiques à usage unique et il n'y a plus de capsules à café. Une volonté d'Ali Diagne, le propriétaire et surfeur, qui se désespère de l'état de l'océan là où il a grandi.
Nous, on est les premiers à voir l'impact de cette pollution et de ces déchets. Donc, on doit être les premiers acteurs de ce combat sur le plastique et les déchets.
Depuis un an, il bénéficie du label Mon Restaurant Zéro Déchet et de l'accompagnement mis en place par l'association Zéro Déchet Sénégal. Le label, qui fête ses 4 ans, compte 66 restaurants dans tout le pays. Abdoulaye Sen sont responsables.
Au Sénégal, c'est plus de 250 000 tonnes de déchets en plastique qui sont produits chaque année. Seules 30 000 tonnes sont collectées en vue donc d'être recyclées. Parce qu'on n'a pas de structure pour le recyclage des déchets. Donc la solution avec le mouvement zéro déchet, donc c'est la réduction en amont des déchets.
Mieux valoriser les déchets, c'est le combat du professeur Adam Stigiani, spécialiste des microplastiques et directeur de l'Institut des métiers de l'environnement et de la métrologie. Mais il regrette le peu d'intérêt des autorités.
Nous avons essayé de les sensibiliser de différentes manières. Mais il faut dire que, pour ne rien vous cacher, l'environnement n'est pas une préoccupation de nos dirigeants. Ça devient une préoccupation quand ils pensent que ça devient une source pour avoir de l'argent. Donc c'est l'approche qui n'est pas bonne.
Pour preuve, si en 2020, le Sénégal a adopté une loi interdisant tous les plastiques à usage unique, celle-ci reste très peu appliquée aux grandes dames des défenseurs de l'environnement.
Reportage diffusé dans le journal de 7h de France Culture le 25 novembre dernier. Une pollution à une telle échelle que cela nécessite que des pays se réunissent. 175 pays se réunissent en ce moment donc en Corée du Sud sous l'égide de l'ONU. Un cycle de discussions lancé en 2022 avec plusieurs rendez-vous par an. Flore Berlingen, est-ce que vous pouvez nous en parler? Les objectifs initiaux sont les suivants. Mettre un terme à la pollution plastique et à la menace pour les écosystèmes, pour la santé humaine ou encore pour le climat. Que peut-on vraiment en attendre? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire à ce stade?
Alors, ce traité plastique, il pourrait, c'est ce que souhaitent notamment les ONG et une majorité de pays, ce traité plastique pourrait fixer un objectif de réduction de la production de polymères plastiques vierges. Ça, c'est vraiment l'objectif le plus important. On voit bien qu'il faut couper le robinet, on en a parlé déjà plusieurs fois. Il y a un précédent, le protocole de Montréal a permis il y a quelques décennies de se mettre d'accord à l'échelle internationale pour réduire l'utilisation de substances qui affectaient la couche d'ozone. Alors évidemment, c'était des usages plus spécifiques.
Savait ce qu'il fallait éradiquer, les CFC notamment, donc c'était très précis.
Oui, et le challenge avec le plastique est évidemment bien plus important. Mais néanmoins, il faut garder ça en ligne de mire. C'est ce que demande donc une majorité de pays. Et par exemple, le Rwanda et le Pérou demandent une trajectoire de réduction de moins 40% d'ici 2040. Les ONG demandent plutôt moins 70%, mais il y a des chiffres qui sont débattus. Et puis ce traité plastique, il pourrait aussi être un moyen de réduire ou de réguler l'utilisation des substances chimiques contenues dans les plastiques. On sait grâce à des revues scientifiques qu'il y a plus de 16 000 substances qui sont recensées, qui sont utilisées dans la fabrication des plastiques et pour au moins 10 000 d'entre elles, on a peu ou pas de données sur la toxicité par exemple, et donc on pourrait grâce à ce traité avoir une approche plus ambitieuse qu'actuellement, plus exigeante qu'actuellement, une approche par exemple no market, no data, c'est-à-dire pas de données, pas de marché. C'est ce que recommande l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, une instance française qui vient de publier un rapport sur les impacts des plastiques sur la santé humaine. Et puis un troisième gros pan du travail qui occupe les négociateurs actuellement, c'est la question des financements. Oui. Des mécanismes de financement à créer, à mettre en œuvre pour permettre la gestion des déchets plastiques existants, mais aussi et surtout le financement de la transition vers la réduction de l'usage du plastique.
Et aider des pays du Sud aussi, victimes de nos besoins, de nos déchets, puisque une partie de nos déchets quand même aboutissent aussi dans ces pays, il faut pas l'oublier. On voit que dans ce cadre-là, il y a des blocs qui s'affrontent, hein, un bloc composé plus de pays producteurs de pétrole, hein, puisqu'il y a quand même cette pétrochimie impliquée dans la production plastique, et puis d'un autre côté, une coalition dite de haute ambition. Et celle-ci, Fleur Berlingen, elle défend le principe de pollueur-payeur, elle plaide pour la mise en place de filières de responsabilité élargie, hein, du producteur, c'est-à-dire les REP. Vous avez beaucoup travaillé sur ces questions-là, et vous avez tendance à dire, mais est-ce que ce n'est pas là, au final, un droit à polluer? Voilà, partagez-nous peut-être vos résultats d'études sur ces questions-là, pollueur-payeur, est-ce que c'est si vertueux?
Alors, c'est cette coalition de pays pour une haute ambition, elle soutient aussi et surtout l'objectif de réduction de la production. Et ça, c'est vraiment essentiel de le rappeler, parce que je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut envisager le principe pollueur-payeur ou l'application du principe pollueur-payeur dans le cadre de ce traité. C'est-à-dire dans un deuxième temps.
Oui, mais d'abord réduire.
Parce que le problème, c'est que justement le principe pollueur-payeur et les différents mécanismes d'application de ce principe peuvent être aussi utilisés par ceux qui s'opposent à une réduction des objectifs, à une réduction de la production plastique, pour dire on va mettre en place des mécanismes de financement, on va pouvoir mieux gérer les déchets, les fuites dans l'environnement, et donc ça suffit pour régler le problème. Et donc voilà, c'est vraiment le principe pollueur-payeur peut avoir un intérêt, et il faut de toute façon que les pollueurs, les responsables, les producteurs en particulier de polymères contribuent financièrement à la gestion du problème, bien évidemment, mais il faut surtout pas que ces mécanismes de financement se substituent à une trajectoire de réduction.
Et aujourd'hui, le système n'est pas si vertueux que cela, puisque certains rapports, dont des rapports au niveau de l'Europe, ont montré quand même que l'efficacité sur la production plastique et sur la filière déchets n'était pas au rendez-vous avec le système REP ou le principe pollueur-payeur. Hein.
Oui, alors le système des REP, donc c'est la responsabilité élargie du producteur. C'est l'un de ces mécanismes de financement inspirés du principe pollueur-payeur et qui consiste pour les producteurs ou les distributeurs qui mettent sur le marché des biens de consommation ou des emballages à verser une éco-contribution pour prendre en charge la fin de vie des objets ou des emballages. Donc concrètement, c'est le mécanisme qui finance la gestion des déchets. Mais on voit bien, on l'a évoqué depuis le début de cette émission, on voit bien que le problème du plastique, c'est pas juste un problème de déchets. Et c'est pour ça que la REP ne peut pas tout régler. Ce mécanisme de financement-là ne peut pas tout régler. Il faut surtout pas lui confier l'ensemble des objectifs. Il faut absolument qu'on puisse fixer en dehors de la REP des objectifs de réduction, enfin et pas seulement des objectifs, des contraintes, un cadre qui limite les usages du plastique.
Oui, ne pas rester juste à un problème de monétisation de la nature et de donner un prix en fait à la pollution, chiffrer le coût de la destruction.
Alors on peut pas se contenter d'incitation, c'est ça aussi, enfin d'incitation financière, parce que l'espoir qu'on met aussi dans ces mécanismes pollueur-payeur, c'est qu'ils soient suffisamment incitatifs pour que les producteurs changent d'eux-mêmes leurs pratiques, la conception des objets, etc. Malheureusement, certains de ces mécanismes sont déjà en application depuis, en France par exemple, 30 ans, et pour autant, le plastique a gagné du terrain.
Alors, des espoirs se portent aussi du côté d'autres solutions, comme celle des bactéries mangeuses de plastique.
Ces chercheurs britanniques viennent de faire une découverte potentiellement révolutionnaire et l'ont faite par hasard. Une enzyme, c'est-à-dire une protéine, qui a la capacité de casser les molécules chimiques du plastique.
On était en train de manipuler cette enzyme qu'on connaissait déjà en théorie et on voulait ralentir son développement. Mais accidentellement, en fait, on l'a accéléré, on l'a multiplié.
Et on s'est rendu compte que cette enzyme brisait le plastique d'une manière extraordinaire.
En 96 heures, soit 4 jours, cette enzyme grignote et mange le plastique, le fragmentant en de petites particules de base qui, elles, peuvent être intégralement recyclées. Le plastique est un tueur massif. Récemment encore, voici ce qu'ont trouvé ces biologistes dans une baleine échouée en Écosse, les intestins intégralement bloqués par ces sacs de course. Et l'homme est le suivant sur la liste. Ce chercheur belge en toxicologie a réalisé un calcul qui fait froid dans le dos.
Cette portion de moule contient 90 microparticules de plastique. Et tôt ou tard, on franchira le seuil où il y aura des conséquences sur la santé humaine. Il faut donc agir maintenant.
Pour l'instant, cette enzyme pourrait surtout être utilisée contre le plastique des bouteilles et pourrait bientôt être développée de manière industrielle.
C'était un reportage diffusé sur France 2 le 18 avril 2018. Nathalie Gontard, vous pouvez peut-être réagir. Est-ce que ce sont des solutions chimiques ou des bactéries qui allez-y.
Alors, je veux bien réagir avec tout le respect que j'ai pour toute cette science dont je fais partie de ce milieu-là. Je travaille aussi sur le développement de toutes ces solutions. Mais je dois avouer que faire de la publicité sur ces avancées m'agace prodigieusement, surtout en ce moment.
En entend beaucoup parler, en tout cas, et c'est encore revenu dernièrement dans l'actualité.
Mais c'est bien ce qui me gêne, c'est-à-dire que c'est une façon de se rassurer sur notre consommation. Et je vais revenir sur cette notion de consommation. Ces enzymes, gardons-les pour les plastiques qui sont vraiment, vraiment essentiels. Et de toute façon, on n'ira pas digérer les plastiques qui sont les 9 milliards de tonnes qui sont dispersées dans notre environnement. Oui. Ça, c'est pas possible. Donc, et en plus, on a vu que les plastiques libèrent de ces particules tout au long de leur chaîne de vie. Donc, on peut absolument pas envisager ces solutions-là comme des solutions qui vont nous permettre de réduire la pollution plastique. Ce qui me gêne, c'est que c'est toujours une façon, quelque part, de nous rassurer sur notre consommation. Et je reviens un petit peu autour, justement, de ces négociations qui ont lieu actuellement. Moi, ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression quand même qu'il y a un grand trou dans la raquette au niveau de ces négociations, qu'il y a un espèce d'angle mort. C'est-à-dire que d'un côté, on a les pays qui produisent et qui, évidemment, eux, défendent tout ce qui est gestion des déchets. C'est très loin au niveau de la chaîne de vie du plastique de leur production. Et puis, ça leur permet de gagner du temps. On a déjà vu pourquoi. Et puis, d'un autre côté, on a tous les pays qui utilisent ce plastique, qui demandent aux pays producteurs de réduire leur production. Moi, ce qui me gêne... Alors, je suis bien d'accord avec les arguments qui sont donnés, mais enfin, ce qui me gêne quand même dans tout ça, c'est que quelque part, s'il y a un marché, c'est qu'il y a de la consommation. La consommation de plastique est strictement proportionnelle au PIB d'un pays. Plus on est riche, plus on en consomme. Et il me semble qu'actuellement, personne n'a le courage d'interroger nos modes de vie de pays riches, c'est-à-dire de se pencher sur les usages. S'il y a des marchés, s'il y a production, c'est qu'il y a des marchés. La pompe à plastique, elle est chez nous. Ce sont nos modes de vie qui induisent cette production de plastique. Ce sont nous qui les utilisons. Alors, encore une fois, quand je dis « nous », pas seulement nous en tant que consommateurs, nous, en tant qu'industriels, utilisons ces plastiques-là. Pour l'emballage, pour la construction, pour la fabrication des vêtements, etc. Et donc, moi, ce qui me gêne un petit peu là-dedans, c'est que c'est bien tous ces progrès-là, mais je me dis que tant qu'on n'aura pas le courage de prendre nos responsabilités et de regarder les choses en face de façon lucide, et tant qu'on ne ciblera pas nos modes de vie et notre dépendance aux biens matériels, qui dépend entièrement de l'usage donc de ces plastiques, je vois pas bien comment on va pouvoir vraiment mettre en place un traité qui sera efficace. C'est-à-dire que quelque part, on a des responsabilités qui sont renvoyées, mais pas forcément au bon endroit.
Alors, peut-être dans les 5 dernières minutes à peu près restantes de l'émission, on va se poser la question, parce que beaucoup d'auditeurs doivent se dire, bon, tout autour de moi ou dans ma maison, j'en ai partout. Et en même temps, vous expliquez les unes et les autres qu'on est au contact de ces microparticules et qu'elles nous intoxiquent. Comment est-ce qu'aujourd'hui, en l'état, on peut se prémunir de cela? Rapidement, Nathalie Gontard, et ensuite on fait un tour de table.
Comment ça, se prémunir? Qu'est-ce que vous entendez se prémunir?
Se protéger, c'est-à-dire que pour l'instant, étant donné que la politique de réduction et de moins de production, moins de consommation n'est pas enclenchée, mais c'est comment protéger, on parlait de vous,
de
l'enfant de Rosalie Mann, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quand même des atteintes à la santé. Comment se protéger?
Alors, on pourrait se mettre à vivre dans une bulle, on peut espérer peut-être qu'on va développer des bulles, mais je suis même pas sûre que ce soit évidemment souhaitable. Personnellement, je pense qu'il faut éloigner le plus possible les plastiques de notre environnement proche. À commencer, on l'a dit, par les vêtements, les emballages, les plastiques dans la construction, enfin bref, à commencer par tous les plastiques qu'on utilise. Mais encore une fois, c'est un problème qui est mondialisé, c'est-à-dire que ces microplastiques, lorsqu'ils sont émis, ils ne s'arrêtent pas, ils n'ont aucune frontière et ils voyagent par tous les biais, y compris par l'air. Donc je pense que c'est pour ça que ce traité il est important, c'est pour ça que cette prise de conscience au niveau mondial, elle est très très importante. Et il faut quand même bien se rendre compte qu'on ne pourra pas s'en prémunir, justement. Et donc que c'est ensemble que nous devons, et de façon collective, que nous devons trouver une solution en prenant bien conscience que s'il y a production de plastique, c'est parce que nous les consommons et parce que nous avons un mode de vie qui utilise énormément de plastique. Et c'est ce mode de vie-là que nous devons nous efforcer de changer. Et je pense que ça ne pourra pas se faire sans le soutien de nos autorités, des politiques et des industriels.
Rapidement, Fleur Berlingen.
Moi, je suis du même avis. On peut difficilement se prémunir à titre individuel. L'action, elle est forcément collective parce que le plastique est présent absolument partout dans notre environnement. Donc même en essayant de limiter sa consommation, on serait quand même exposé. Après, ça n'empêche pas de le faire quand même, et notamment pour tout ce qui concerne l'alimentation. Ne pas réchauffer ses aliments dans du plastique pour éviter d'aggraver peut-être son exposition. Mais voilà, la réponse pour moi est avant tout collective.
Et sur les vêtements, peut-être un affichage environnemental pour les vêtements, dire où il y a du plastique.
Regarder les étiquettes surtout.
Alors les étiquettes, nous informent sur.
Elles portent déjà ces informations-là, ce que vous dites.
La composition est déjà présente. Après, l'affichage environnemental qui va bientôt arriver pour le textile, comportera des informations sur les impacts environnementaux, le coût environnemental de chaque vêtement.
Absolument. Et aucun sur la santé. Quand vous regardez une étiquette de 20% de polyester, vous allez ailleurs, vous tournez le dos et vous achetez moins. Et je vous assure que quand vous faites comme ça, vous allez consommer moins. Parce que moi, par exemple, aujourd'hui, trouver des vêtements sans polyester, sans polyamide, c'est très compliqué. Donc, si vous voulez vous prémunir, c'est regarder les étiquettes. Parce que je trouve que on a fait une étude, notamment avec Woolmark, pour voir si les gens regardaient les étiquettes. Il y a moins en moins de personnes qui regardent les étiquettes, justement, des vêtements. Ils achètent plus par coup de cœur, par envie, par mode. Vraiment, regarder les étiquettes, regarder, et surtout les femmes, parce qu'on est en première ligne de cette pollution microplastique, c'est quand même, on met nos vies en danger en consommant autant de plastique, que ça soit dans le textile ou les emballages, les crèmes. Aujourd'hui, on vit dans le luxe du plastique, comme disait très bien Nathalie. Et c'est parce qu'on vit dans ce luxe-là que les femmes dans les pays développés comme le nôtre sont beaucoup plus exposées que les femmes dans les pays sous-développés. On dit souvent, les femmes sont en première ligne parce qu'elles sont dans les décharges, etc. Non, c'est nous, parce qu'on est aujourd'hui, une femme met en moyenne 15 produits de beauté et d'hygiène
et vous en parlez
par
dans
jour,
votre
quotidiennement.
Livre, il y a deux pages complètes. Exactement. Comment réduire les risques.
Regardez, utilisez du verre, d'autres emballages que du plastique.
Nathalie Gontard, 30 secondes.
Oui, juste pour revenir sur ces histoires d'étiquetage, je pense que il me semble qu'un étiquetage clair de tous les vêtements, mais pas seulement, de tous les objets contenant du plastique, doit devenir obligatoire sans délai, parce que aller fouiller avec une loupe la composition de votre vêtement, je vous assure que c'est pas simple. Je le fais, mais alors vraiment,
ça suffit pas. Ça marche. Vous savez.
Merci.
C'est vrai que ça serait indiqué clairement sur une étiquette.
Et oui, c'est ça.
Ça coûterait pas beaucoup plus cher.
La demande est entendue. Merci à toutes les trois. Nathalie Gontard, je rappelle le titre de votre livre, coécrit avec Hélène Saint-Gier. Il s'intitule Plastique, le grand emballement. Il est paru aux éditions Stock. Rosalie Mann, No More Plastique, comment le plastique ruine notre santé. Édité donc aux éditions La Plage. Et Fleur Berlingen, Recyclage, le grand enfumage. Et aussi donc Permis de nuire. Les deux édités chez Rue de l'Échiquier. Et puis, pour renouer, aller avec le vivant, si vous êtes du côté de Bordeaux, n'hésitez pas à investir le muséum et le jardin botanique qui proposent en ce moment une belle exposition sur les migrations du vivant, animaux, végétaux et humains. Informations, bibliographie, comme d'habitude, les liens sont à votre disposition sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, où d'autres podcasts en lien avec le sujet vous sont également proposés.